Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vous remercie déjà pour votre présence à ce débat organisé par la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou. Ce soir, comme certains soirs dans notre programmation, nous vous présentons un débat organisé en partenariat avec les éditions de l'École des hautes études en sciences sociales sur le passage à l'art, qui va être animé par Philippe Moura, qui est le directeur général de la Maison des Métallos à Paris. Donc je vais laisser Philippe présenter nos invités. Je remercie également Guylaine Depy, avec qui j'ai conçu cette soirée, et tous les intervenants qui ont accepté d'y participer. À bientôt.
Bonsoir. Donc je vous présente nos intervenants par ordre d'entrée en scène. Je passerai tout à l'heure en premier la parole à Roberta Shapiro, qui est donc sociologue au ministère de la Culture et à l'École de hautes études en sciences sociales. Elle a publié de nombreux articles sur les danses urbaines en France et aux États-Unis. Et récemment, l'artiste pluriel démultiplier l'activité pour vivre de son art aux presses universitaires du Septentrion à Villeneuve-d'Ascq en 2009. Ensuite, je passerai la parole à Nathalie Hennick, qui est sociologue et directeur de recherche au CNRS. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels récemment La fabrique du patrimoine, de la cathédrale à la petite cuillère, Paris, édition de la Maison des sciences de l'homme en 2009, Faire voir l'art à l'épreuve de ses médiations, Paris, les impressions nouvelles 2009, et qui sort cette semaine, je crois, aux éditions Gallimard, de la visibilité, excellence et singularité en régime médiatique. Et bien sûr, Roberta et Nathalie viennent de publier la semaine dernière le livre qui nous réunit ce soir, De l'artification, le passage à l'art, qui est donc publié par les éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Et c'est à l'occasion de la parution de cet ouvrage que nous sommes réunis ce soir. Ensuite, nous entendrons le point de vue de Jean-Marie Schaeffer, qui est directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste d'esthétique philosophique et de théorie des arts. Il a dirigé avec John Peer Metalepse, entorse au pacte de la représentation, Paris, édition de l'École des hautes études en sciences sociales 2005, et il est l'auteur, plus récemment, de « Théorie des signaux coûteux, esthétique et art » à Tangence, éditeur, en 2010. Voilà. Si vous voulez compléter, non ? C'est bon. Donc, je vais commencer, comme on me l'a demandé, par reposer un peu la problématique qui nous réunit ici ce soir. Et puis démarrer par le point de vue de l'homme de terrain que je suis, parce que je ne suis ni sociologue, ni philosophe, ni théoricien. Donc je demande aux spécialistes de me pardonner mes imprécisions de profane. La problématique dont il est question, c'est le déplacement de la frontière entre art et non-art, tout simplement. Cela repose sur une idée extrêmement simple qui est développée dans le livre, à savoir que l'art n'est pas un corpus d'objets définis une fois pour toutes par les institutions et les disciplines consacrées, mais le résultat de processus sociaux datés et situés. On peut donc se demander comment l'art vient-il aux personnes, aux objets, aux activités. Comment passe-t-on d'une activité quelconque à un art, d'un simple artefact à une œuvre et d'un praticien à un artiste. Pour cela, il faut accepter qu'une chose puisse fonctionner comme œuvre d'art en certains moments et non en d'autres. Il faut aussi reconnaître la dimension profondément contextuelle de la catégorisation artistique au lieu d'y voir l'effet d'une essence inscrite dans l'objet lui-même. Les auteurs de l'artification, qui est un ouvrage collectif, dirigé donc par Roberta et Nathalie, dégage quelques repères, notamment que le mouvement d'artification va toujours de pair avec l'esthétisation, l'individualisation et la professionnalisation. Mais tout cela dans la complexité. Les auteurs, par exemple, sur la professionnalisation, relèvent que De même, je cite, de même que la professionnalité n'est nullement un gage d'articité, de même, l'existence de pratiques amateurs n'est pas, bien au contraire, un empêchement à la reconnaissance au titre d'art. On voit bien que cette problématique de l'artification est opérante, mais pas duplicable systématiquement, car elle est susceptible de s'appliquer à des réalités limites, très variées. Et je cite, mais on va y revenir avec nos intervenants, ces réalités limites qui sont développées par différents articles dans le livre, c'est entre autres l'art brut, la photographie, la danse hip-hop, les métiers d'art, la magie nouvelle, le graffiti, la mode, la BD, les arts premiers. Voilà. De mon point de vue, à moi qui suis un acteur de terrain, qui suis plutôt un praticien de l'action culturelle et sociale, plutôt en quelque sorte un metteur en scène de l'activité artistique, c'est que poser tout cela dans ces termes-là est assez passionnant parce que nous vivons dans notre métier de programmateur, d'intermédiaire, de médiateur entre les artistes et les publics. Nous vivons ces questions-là au jour le jour et, je dirais, souvent dans une certaine confusion. Il y a des réalités qui nous apparaissent et on a souvent du mal à les discerner, à les circonscrire et à mettre des mots dessus. Et donc, un livre comme celui-là, pour nous, est une chance, en quelque sorte. Il faut savoir que je suis assez directement concerné de par mon parcours par ces questions-là, parce qu'il se trouve que j'ai débuté ma carrière fin des années 70 comme directeur d'une maison de quartier dans une cité HLM, et où la question de la culture et a fortiori de l'art était une question qui était dérangeante en quelque sorte, qui avait du mal à trouver sa place, surtout fin des années 70. Et en fait, j'ai eu la chance, par le biais de la politique de la ville, on y reviendra aussi, parce que je pense que ça a été aussi un axe important, un médiateur important, un artificateur important, en quelque sorte, la politique de la ville. J'ai eu la chance de vivre des expériences un peu pilotes dans ce domaine, sur ce premier poste. Et puis, au fil de ma carrière, après, j'ai été chef de projet, responsable des rencontres de la Villette, qui ont d'abord été des rencontres de danse urbaine, puis des rencontres de cultures urbaines, et puis les rencontres de la Villette, parce qu'on a élargi le concept. Et on ne l'a pas élargi par hasard. Et Roberta le dira peut-être tout à l'heure, mais c'est un petit peu, en quelque sorte, à l'occasion de ces rencontres de la Villette, et en particulier sur la révélation de la danse hip-hop, qui restait toujours la discipline un peu maîtresse, centrale de ce festival, que cette question de l'artification s'est posée à Roberta, a surgi et finalement l'a amené à développer un certain nombre de séminaires et à mettre à poser ces questions collectivement avec ses collègues. Et pourquoi ? Parce que nous étions à un moment donné, c'était en 80, enfin les premières rencontres datent de 96, Roberta les a découvertes en 98, nous étions à un moment donné, au fil des années, c'était passé entre ma fin des années 70 de mon premier poste et donc 96, 17, 18, au fil du développement de l'histoire de la danse hip-hop, au fil du développement des politiques de la ville, un certain nombre de phénomènes, de révélations de phénomènes artistiques s'étaient passés sur les terrains des banlieues, etc., qui faisaient que des gens étaient passés de, plus ou moins réputés, pré-délinquants, échecs scolaires, fils d'immigrés en situation d'intégration difficile, etc., etc., étaient passés au statut, on peut dire comme ça, en tout cas pour un certain nombre de journalistes, un certain nombre de professionnels, pour un public, au statut d'artiste. Et donc, c'était assez saisissant, cette rapidité, ce raccourci, ce qui a amené à poser des questions de l'artification. Juste un mot pour terminer sur mon expérience et sur les rencontres de la Villette. C'est vrai que on a été très vite, on s'est rendu compte que si on restait toujours sur le terrain des cultures urbaines, on tournait un peu en rond, et qu'il y avait un intérêt pour un établissement public comme celui du Parc et de la Grande Halle de la Villette, qu'un établissement national, le festival avait pris une renommée internationale, à essayer de fouiller un petit peu plus loin. Et en fait, on a travaillé sur les surgissements artistiques qui venaient de nécessité d'expression. Des gens qui étaient en prison, des gens qui étaient en hôpital psychiatrique, des gens qui étaient en camp de réfugiés, qui en quelque sorte s'emparaient de quelque chose que nous, on appelle art, mais pas forcément eux, pour s'exprimer, pour presque dans des conditions de survie, pour dire un « je » face au monde hostile qui leur permettait de survivre. Et ces surgissements d'expression qu'on a pu qualifier, ramasser sous le label d'art, c'est ce qu'on a essayé d'explorer au fil des rencontres de la Villette pendant 13 années. Aujourd'hui, je suis directeur de la Maison des Métallos, dont le projet est assez proche, c'est-à-dire qu'il s'agit d'interroger à travers une programmation, à travers des rencontres, des débats, mais surtout à travers ce que l'on met sur les scènes et dans les salles d'exposition, d'interroger ces rapports intimes entre une nécessité forte d'expression par rapport à une société et la création artistique. Donc on se pose moins la question de la légitimité artistique d'une œuvre que de son processus de création. Donc on est assez bien situé par rapport à cette problématique de l'artification. Ce que je pourrais dire en complément, peut-être tout de suite pour pas toujours caresser dans le sens du poil, il manque des choses à mon avis dans ces des choses que j'aurais envie de compléter du point de vue de l'homme de terrain, à savoir que par exemple, nous avons eu début janvier les 3J, trois journées de la joute et de la jacte, qui était organisé par des slameurs d'un peu toute la France, des collectifs de slameurs. Le slam est très peu abordé dans le livre. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il est au cœur de cette problématisation, de cette problématique de l'artification. C'est-à-dire qu'on a eu une rencontre de slameurs à la Maison des Métallos, où il y avait des artistes de toute génération, de milieux très différents, des adolescents, des gens âgés, venus de plusieurs régions, il n'y avait pas que des Parisiens. Et il y a eu un débat qui m'a paru d'un niveau très étonnant. Je ne pense pas que la majorité d'entre eux soient des grands intellectuels, loin de là. Mais c'était un débat très mature, et en particulier sur la question « Sommes-nous des artistes ?». Et la question était posée de façon à la fois très humble et très juste, pas faussement humble, Et les réponses n'étaient pas du tout catégoriques, n'étaient pas du tout affirmatives. Et pourtant, dans la salle, il y avait des gens comme Jizz, qui est un slameur bien connu, qui passe sur beaucoup de scènes, qui a été programmé par des metteurs en scène, de directeurs de centres dramatiques nationaux, etc. etc. Donc, quelqu'un qui a une reconnaissance, on peut penser qu'il aurait une légitimité en tant qu'artiste, et bien lui-même disait que c'était intéressant de toujours se poser la question et que c'était toujours quelque chose qui était au travail pour lui. Donc, vraiment, c'est pour vous dire à quel point cette question qui peut paraître très, très théorique et d'être d'un point de vue très, comme ça, sociologique, universitaire, est finalement quelque chose que des gens aujourd'hui qui pratiquent quelque chose qui s'appelle là le slam, mais on pourrait prendre certainement d'autres exemples ailleurs, se posent concrètement, réellement, ces questions-là. C'est vraiment les mêmes questions. Voilà, autrement, ce que j'ajouterais aussi, qui me manque un tout petit peu, c'est cette définition de Rancière qui dit que l'art est le partage du sensible. Et je pense que, voilà, pour moi, un peu un critère d'artification, peut-être. et que peut-être pas beaucoup de place, pas assez de place est faite à cette notion de sensibilité, d'émotion partagée. Et voilà, et encore une fois, c'est, le mot partage est aussi important que le mot sensible dans la définition, le partage du sensible. Et finalement, ce qui nous intéresse à la Maison des Métallos, dans notre projet, et bien c'est ce qui interroge la frontière, qui bouscule les périmètres de l'art. Car moi, il me semble que l'art est par nature en expansion, en dépassement de ses limites. Que l'art est déplacement. Et je ne ferai qu'une citation, mais j'y tiens, elle est d'un metteur en scène de théâtre qui s'appelle Benoît Lambert. Il dit « La fonction esthétique d'une œuvre réside d'abord dans le déplacement qu'elle crée par rapport aux représentations les plus connues du monde. La force d'une œuvre se lirait dans la force du refus qu'elle oppose à l'évidence béate des significations et des représentations dominantes. » Une œuvre, même petite, même ratée, c'est toujours une guérilla menée contre tous les essentialismes, tous les fixismes, tous ces discours qui répètent à l'envi que le monde c'est ça, c'est comme ça, ça se regarde et ça s'utilise comme ça, c'est naturel, c'est normal, ça va de soi, etc. Eh bien, l'art ne peut que s'appliquer à lui-même cet impératif, j'ai envie de dire. Voilà, pour moi, un critère d'artification, c'est aussi l'écart poétique, le déplacement, l'anti-pensée unique, et aussi, comme je disais, le partage du sensible, l'émotion, la surprise, la curiosité. Alors, il y a quand même un moment dans le livre, c'est finalement le tout début, qui est le début de l'avant-propos qui est signé de Roberta Shapiro, où finalement, elle parle quand même d'émotion, et elle emploie même le mot « jubilation ». Vous vous êtes laissé aller, Roberta, pour une sociologue. Et quand même, c'est bien à partir de cette émotion partagée dont vous parlez sur scène, de ce plaisir aussi partagé entre les acteurs, les artistes donc sur scène et le public, qu'est né ce choc qui, finalement, peut-être nous a amenés jusqu'ici, ce soir. Alors, je vous laisse la parole et répondre à cette question-là, et puis nous présenter, bien sûr, le livre, plus précisément.
Merci beaucoup, Philippe. Bonjour et merci d'être venu ce soir. En effet, c'est vrai que ce livre, tout le travail qui a donné lieu à ce livre, est né d'une rencontre, est née de la rencontre entre une émotion esthétique, en effet, la rencontre entre cette émotion esthétique et une curiosité scientifique. Et cette émotion esthétique, c'est vrai qu'elle est venue aux rencontres de la Villette, dont Philippe était directeur en 1998, quand j'ai vu de la danse hip-hop pour la première fois, quand j'ai vu la danse hip-hop sur scène aux rencontres de la Villette à cette époque-là, c'était quelque chose que je trouvais absolument extraordinaire et d'une beauté absolument étonnante et quelque chose de tout à fait bouleversant, et non seulement bouleversant d'un point de vue esthétique, mais c'était aussi quelque chose qui était bouleversant d'un point de vue social. C'est quelque chose qui allait à l'encontre de tous mes préjugés en tant que membre de la société, parce que effectivement, ces jeunes fils d'ouvriers arabes et africains étaient sur scène, se prenaient pour des artistes, agissaient comme des artistes, étaient des artistes, et faisait des choses absolument extraordinaires sur scène et des choses très belles, alors que moi, je m'attendais absolument pas du tout à ça. Et comme tout le monde, je m'attendais à ce que des fils d'ouvriers soient des ouvriers. J'étais tout à fait étonnée et me demandais ce qu'ils faisaient là, tout simplement. Et cette question, qu'est-ce que des fils d'ouvriers font ailleurs que à leur place socialement désignée dans les préjugés que j'avais à l'époque, ont commencé à me faire travailler sur cette question. Et donc j'étais dans un énorme festival à la Grande Halle de la Villette que vous connaissez sans doute. Un festival extrêmement qui durait 2-3 semaines, qui était assez somptueux, dans lequel l'État mettait beaucoup de moyens. C'était financé par le ministère de la Culture et d'autres entités publiques. Il y avait énormément de manifestations autres que le hip-hop. Ça se déroulait sur un espace très grand. Il y avait énormément de public, des débats, des expositions. Il y avait une couverture médiatique importante, des gens qui avaient beaucoup à dire sur ce qu'ils faisaient, qui avaient des analyses intéressantes à donner sur leurs propres pratiques, qui donc donnaient des spectacles extrêmement intéressants, extrêmement variés. C'était une machine à fabriquer de l'art, ce festival. Donc ça interrogeait, c'était très intéressant à observer, à analyser. Et donc en tant que sociologue, ça amenait à se poser des questions, à croiser ces observations et à se demander avec quoi on pouvait mettre, quel parallèle on pouvait faire avec d'autres phénomènes historiques ou d'autres disciplines qui pouvaient présenter des caractéristiques similaires. Donc on pouvait comparer ça avec le jazz, avec l'art brut, comme phénomène à peu près contemporain au 19e ou 20e siècle. Et dans l'histoire, ça me faisait penser aux travaux de Nathalie Hennig sur le changement des historiens de l'art, sur le changement de statut des peintres, sur leur accession progressive au statut d'artiste qui n'était pas du tout donné, qui avait été une accession progressive. Donc cette conjonction d'une émotion esthétique effectivement forte, comme l'a dit Philippe, et de ce que je pouvais savoir plus ou moins de ce que je pouvais savoir en histoire de l'art ou en sociologie, et puis après d'une rencontre amicale avec Nathalie et dans mon laboratoire de recherche avec Véronique Moulinier qui travaillait sur l'art brut et l'art singulier, a conduit peu à peu à une réflexion sur ce processus. Comment est-ce que ce qu'on appelle dans la société art vient à naître, vient à se constituer? Et donc on a commencé à discuter avec Nathalie dans notre laboratoire de recherche, avec Véronique Moulinier, dont il y a un article dans le livre, et on a commencé à travailler la question. Et quand on l'énonce, est effectivement très simple, que l'art est l'objet d'un... Et l'art est n'est pas quelque chose de donné, mais le résultat d'un processus. On s'est rendu compte que finalement, même si ça semble tomber sous le sens, on s'est rendu compte que dans nos disciplines, ça n'avait pas été si bien exploré que ça. Et on s'est mis en tête de faire un travail systématique et de passer en revue autant de disciplines qu'on pouvait et de rassembler, de faire un séminaire et d'inviter des collègues à travailler avec nous sur ce thème. Et on a forgé ce néologisme un petit peu barbare, artification, mais qui nous semble finalement assez parlant pour traduire ce processus. Et on a organisé un séminaire qui a duré pendant quelques années et on s'est mis en tête de fabriquer un bouquin qui finalement a vu le jour au bout de plusieurs années de discussion et de travail. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que l'artification ? au bout de pas mal de discussions et d'observations, on est arrivé à une sorte de modélisation, si on peut dire, à partir de beaucoup d'observations. Mais peut-être que je peux vous dire, vous énoncer tout de même les contributions de mes collègues, parce qu'il n'y a pas que Nathalie et moi, dire les noms de mes camarades. François Brunet, qui a travaillé sur la photographie, Émilie Notegem, qui a travaillé sur les objets du culte catholique, Véronique Moulinier, donc, qui a travaillé sur l'art des singuliers, donc c'est un peu une extension de l'art brut, Michel Melot, qui a travaillé sur les métiers d'art, Serge Proust sur les metteurs en scène, Graham Jones sur la magie, Magali Cizorn sur les trapézistes et le cirque, Marisa Liebo sur le graffiti, moi-même donc sur la danse hip-hop, Nathalie et Nick sur l'inventaire, Béatrice Frankel sur la typographie. Après, dans la deuxième partie de ce livre, c'est la première partie de l'ouvrage qui donne des monographies assez longues et originales sur ces thèmes. Il y a une deuxième partie du livre qui comprend des articles plus courts, des sortes de fiches d'encyclopédie, des résumés plus courts qui donnent l'état de la question sur cinq thèmes. Donc il y a le cinéma, fait par Martine Chaudron et Nathalie Hennig. Après, il y a une fiche par Véronique Moulinier et moi-même sur l'art brut. Après, il y a un article par Diana Crane, qui est un expert sur la mode. Vincent Sevaux donne un texte sur la bande dessinée. Ensuite, il y a un article de Nathalie sur les arts premiers. Et ensuite, on termine par une synthèse, Nathalie et moi, une tentative de théorisation et de synthèse un peu globale sur l'ensemble de ce travail et qui puise aussi sur les résultats d'autres travaux non compris ici, qu'on intitule « Quand y a-t-il artification ?» Voilà. Avant de terminer, quelques mots sur qu'est-ce qu'on a tiré de l'ensemble de ce travail. La théorisation qu'on a faite, elle est un petit peu complexe. Je ne vais pas tout exposer, mais peut-être quelques traits de cette théorisation. Disons, pour résumer, on peut dire que nous, on a compris l'artification. On essaye de rendre l'artification comme un processus qui est une configuration de processus ou une configuration d'opération. On a énuméré une dizaine d'opérations, mais il ne faut pas prendre ça trop au sérieux. On pourrait dire 10, on pourrait dire 15. On peut découper toujours ces opérations en catégories plus ou moins fines. Par exemple, la nomination. Les changements de nomination sont très importants. On ne dit plus Smurf, on dit danse hip-hop. On ne dit plus metteur en scène, on dit créateur. On ne dit plus imagier. Au moment de la Renaissance, on dit artiste. Tous ces déplacements, ces changements de nom sont extrêmement importants pour désigner une élévation de statut. Donc ça, c'est la nomination. Et peut-être même avant cela, dans la chronologie, il y a le déplacement spatial, l'extraction du contexte originel. Le graffiti passe du mur à la toile. À la Renaissance, la fresque passe du mur à la toile. La danse hip-hop passe de la rue à la scène. Le jazz est noté sur une partition et est extrait de son contexte d'origine, de l'oralité, passe à l'écriture. Ça, c'est une deuxième opération importante. Il y a des changements institutionnels. Troisième processus important, des changements institutionnels. Des systèmes académiques se mettent en place à la Renaissance. Dans son article sur la photographie, François Brunet parle des conquêtes institutionnelles que les photographes se mettent en... que les photographes, les clubs, les associations que les photographes dans les années 20 mettent en place pour s'organiser pour avoir un pouvoir important par rapport aux musées, aux critiques. La consolidation, j'arrive pas à le dire, consolidation juridique est importante aussi. Toutes les décisions qui ont trait aux droits d'auteur, par exemple, sont des étapes importantes dans le chemin vers l'artification. Les changements dans la division du travail. Très souvent, il y a un passage du collectif vers l'individuel. Par exemple, pour les peintres, le passage de l'atelier au peintre individuel et l'émergence de la signature, l'émergence de l'auteur. On le voit pour la danse hip-hop, par exemple. Il y a 15 ans, il y avait des créations collectives. Surtout, aujourd'hui, on voit beaucoup l'émergence du chorégraphe individuel et l'affirmation de l'auteur. Un autre processus très important, c'est la réflexivité et l'intellectualisation des processus. Bon, il y a d'autres processus importants, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais tous ces processus font partie d'un ensemble qui, pris ensemble dans des chronologies différentes selon les disciplines, font partie du processus d'artification. Et ce qui est tout à fait passionnant, c'est de constater que des pratiques aussi différentes que la peinture à la Renaissance jusqu'au XIXe siècle ou la danse hip-hop aujourd'hui au XXe, XXIe siècle ont des traits communs selon des opérations telles que je viens de les décrire. Autant la danse hip-hop que la peinture, la photographie que le cinéma peuvent être décrits selon des processus similaires à ceux-ci. Et c'est ce qui est tout à fait intéressant à observer. Cela dit, ce processus n'est pas non plus un processus unifié, inéluctable et monolithique. Il y a aussi des mouvements contraires, des obstacles à l'artification, des résistances, des groupes à qui cela pose problème, des groupes qui ne souhaitent pas aller dans ce sens, des mouvements de désartification, des mouvements de résistance à l'artification. On pourra en parler. Merci.
Merci. Nathalie Yannick, quel est votre point de vue? Pourquoi vous êtes laissée entraîner dans cette affaire?
Mais en fait, parce que Roberta est arrivée un jour dans notre labo avec un mot nouveau. Et là, j'ai réalisé ce que c'est que le pouvoir d'un mot. C'était donc le mot artification. Et donc, elle nous a parlé de ce qu'elle vient de vous dire, comment elle avait rencontré cette problématique en travaillant sur le hip-hop et la transformation des danseurs et de hip-hop en artistes. Bon. Et puis, tout d'un coup, en l'écoutant, j'ai réalisé que, comme M. Jourdain qui faisait de la prof sans le savoir, moi j'avais travaillé depuis longtemps sur l'artification sans le savoir. Donc j'ai réalisé que mon travail sur l'histoire de l'émergence du statut d'artiste à l'âge classique n'était rien d'autre qu'une histoire d'artification très réussie, hein, au point que on n'imagine plus aujourd'hui qu'il a fallu en passer par ce processus pour que la peinture apparaisse comme un art. J'avais aussi travaillé sur la façon dont les réalisateurs de cinéma sont passés peu à peu au statut d'auteur. C'était même mon projet grâce auquel je suis entrée au CNRS. J'avais travaillé aussi sur, grâce à une enquête sur les décors de boutiques qui avaient été inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 83. J'avais donc travaillé aussi sur la façon dont des objets utilitaires de la vie quotidienne peuvent être tout d'un coup catégorisés comme des objets esthétiques, sinon artistiques. J'avais aussi, je m'étais intéressée à la fameuse querelle des arts premiers. Hein, est-ce qu'il faut traiter les objets d'art primitifs comme des documents ethnographiques ou comme des œuvres d'art? Le débat continue hein, parmi les spécialistes et l'ouverture du musée du Quai Branly ne l'a pas fait s'arrêter. Bref, tout d'un coup, comme un kaléidoscope qui, par un petit mouvement, reconfigure complètement les pièces qu'on avait en main, je vois émerger cette problématique de l'artification et je trouve ça tout à fait passionnant. Donc on a décidé avec Roberta de monter ce séminaire donc, dans le cadre de notre l'un des deux laboratoires communs, le Laïc. Et là donc on a invité des spécialistes de différents domaines qui nous paraissaient avoir affaire avec un processus d'artification. Donc comme Roberta l'a dit, bon, ben, la photo, les métiers d'art, etc. etc. Bon, on a d'ailleurs découvert du même coup, enfin moi en tout cas j'ai découvert des objets auxquels je n'avais jamais pensé comme étant l'objet d'un processus d'artification, par exemple les objets de culte. Hein, comment est-ce que des objets de culte tels qu'on les voit dans les églises peuvent basculer et tout d'un coup être traités comme des œuvres d'art, hein, ça, au prix de très très complexe transformation. Alors quand on a commencé à organiser ce séminaire et donc à écouter nos invités, il a fallu se battre contre un certain nombre de présupposés qui n'étaient pas évidents. D'abord, il a fallu se battre contre l'idée que nous aurions une définition de l'art et que à partir de cette définition, nous observerions ce qui en vient à assumer ce statut artistique. Alors, pas du tout. Nous n'avons pas de définition de l'art a priori. Nous observons la façon dont les acteurs et les institutions confèrent un statut artistique aux objets. Hein, et nous ne faisons rien d'autre que ce travail d'observation. Nous n'avons pas de définition a priori. C'est un moment fondamental en sociologie, hein, qui est cet abandon d'une posture ontologique préalable. Il a fallu se battre aussi contre un autre mot, qui était le mot d'artialisation, qu'Alain Roger avait mis en place dans un livre très intéressant sur le paysage, où il montre comment la culture artistique fait que on en vient à percevoir la nature par les lunettes, si on peut dire, de l'art, hein, à travers le prisme de l'art. Bon, c'était pas du tout notre propos. Il s'agissait pas de travailler sur la perception esthétique et le rapport aux œuvres, mais de façon beaucoup plus générale sur des processus extrêmement concrets d'ordre juridique, sémantique, institutionnel, pratiques, techniques, etc., qui accompagnent ce processus de transformation d'une pratique. Donc, abandon de l'artialisation. Et alors, là où ça a été vraiment beaucoup plus compliqué, ça a été de lutter contre un autre mot qui est extrêmement prégnant aujourd'hui en sociologie, qui est le mot de légitimation. Parce que beaucoup de nos intervenants arrivaient persuadés que nous allions leur demander de nous expliquer comment la pratique artistique dont ils étaient les spécialistes était peu à peu, avait monté, si on peut dire, dans l'échelle de légitimité et était passée du statut d'art mineur au statut d'art majeur. Bon, par exemple, la photographie, pour citer, ou la bande dessinée, ou bien d'autres, ou le cinéma, etc., etc. Bon. Et c'est une problématique qu'on a très vite essayé de mettre de côté. Pourquoi ? Parce que elle est déjà infiniment traitée. Elle est, grâce à Bourdieu, elle est devenue une sorte de standard des problématiques sur la sociologie de la culture, avec cette idée très forte, un, de la hiérarchie culturelle, hein, avec l'opposition dominant-dominé, et deux, de cette idée justement de domination qui ferait que ben il y a toujours les dominants au sommet et puis les dominés qui arrivent plus ou moins à surmonter ces problèmes de hiérarchie. Symétriquement, aux États-Unis, cette problématique existe non plus sous l'égide de la sociologie de Bourdieu, mais plutôt à travers la problématique high art, low art, hein, les arts majeurs et les arts mineurs, qui est là aussi extrêmement connu. Il y a toutes sortes de bouquins, d'articles, etc., qui apparaissent sous ce titre-là. Donc, inutile d'ajouter quelque chose à ce qui existait déjà. D'autant que ce qui est intéressant dans la problématique de la légitimation, c'est qu'il s'agit de travailler sur le changement de niveau, disons, hiérarchique à l'intérieur d'une même catégorie, alors que nous essayons de travailler sur quelque chose qui, moi, me paraît beaucoup plus passionnant, qui est le changement de catégorie, c'est-à-dire un passage de frontière entre quelque chose qui n'était pas du tout considéré comme de l'art et quelque chose qui en vient à être considéré comme de l'art. Et c'est évidemment quelque chose de beaucoup plus excitant intellectuellement, parce que ça exige un travail de la part des acteurs beaucoup plus costaud, beaucoup plus important que celui de simplement de réclamer un statut supérieur. Et ça, cette question de la frontière ontologique entre non-art et art a été vraiment donc au cœur de notre travail, qui a donc consisté en grande partie à dissuader nos intervenants de nous amener l'éternelle question de la légitimation. Bon, ils ont compris assez vite, mais quand même, ça donnait lieu à des situations très cocasses où on ne cessait de les embêter. Ils parlaient 3 minutes et demie, et là, on les interrompait, et on disait, mais attendez, là, ce que vous dites... D'abord, c'était en quelle année? Et puis, ce collectif qui s'est créé, c'était une association privée ou c'était une académie reconnue par l'État? Ou bien, et là, cette mesure, est-ce qu'elle a été entérinée juridiquement ou pas? Et ce livre sur le graffiti, il a été publié, c'était une petite brochure photocopiée ou c'était sur du papier glacé? Et alors, chaque fois, nos intervenants nous disaient, attendez, mais ça, c'est un détail, ça n'a pas d'intérêt. Et on les embêtait pour qu'ils nous racontent ces détails, parce que, justement, ce sont ces détails qui sont intéressants et qui sont vraiment au cœur de tous ces micro-processus qui signalent et fabriquent à la fois le passage à l'art. C'est ce qu'on a là aussi découvert un peu en le faisant, comme toujours quand on bricole, c'est la sociologie pragmatique, hein, c'est-à-dire une sociologie qui s'intéresse aux actions en situation réelle et non pas aux grandes catégories prises dans l'abstrait. Et donc les situations réelles, les objets, tout ce qui est extrêmement concret est absolument au cœur de ce qui nous permet de travailler vraiment nos objets. Et donc ça a été... Un accouchement au forceps, si on peut dire, c'est un peu compliqué, parce qu'au bout des 2 heures de séminaire, nos intervenants sortaient en général épuisés, mais la plupart du temps très contents. Hein, je crois qu'il, d'un coup, il y avait un moment où on lisait dans leur regard qu'ils comprenaient ce qu'on attendait d'eux, et ils jouaient le jeu, et c'était absolument formidable. On n'a pas pu tous les inviter à participer au livre, parce que c'était pas toujours possible, mais la plupart d'entre eux ont joué le jeu jusqu'au livre. Ça a donc été vraiment une élaboration collective, et la postface qui clôt notre livre est vraiment un travail inductif, c'est-à-dire que le livre n'est pas une déclinaison de définitions que nous aurions constituées dans l'abstrait a priori. Tout ce que nous racontons avec Roberta dans la postface, c'est-à-dire la synthèse, le résumé des différents processus par lesquels il faut passer pour en arriver à être de l'art ou à faire de l'art, eh bien, c'est vraiment le résultat d'un travail inductif à partir des différents travaux que nous avons à la fois entendus et fait émerger. Il restait à se poser une question qui nous a un petit peu taraudé pendant toutes ces années de séminaire, c'est la question de la désartification, parce que bien évidemment, dans notre société occidentale actuelle, le fait de devenir de l'art est quelque chose de positif, de quelque chose de valorisant, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la problématique de la légitimation vient tout de suite se greffer sur celle de l'artification, puisque dès lors qu'une activité devient de l'art, elle entre dans un processus de légitimation. La question est de savoir, est-ce que dans ce processus qui fait que être artiste c'est toujours mieux que de ne pas être artiste et faire de l'art c'est toujours mieux que de faire de l'artisanat ou pas de l'art du tout, est-ce qu'il y a des cas inverses où une pratique qui était considérée comme artistique en vient à ne plus être considérée comme artistique, donc à se désartifier, si on peut oser ce néologisme. Et j'avoue qu'on a eu un petit peu de mal à trouver des exemples, on n'était pas trop sûr de notre fait. On a pensé notamment à la conversation, puisqu'il était beaucoup question au XVIIIe siècle de l'art de la conversation, donc on s'est par exemple demandé si elle avait pu être vraiment considérée comme un art autrement que de façon métaphorique. Hein, parce que tout le problème dans ce travail, ça a été d'éviter la métaphore. Hein. Par exemple, est-ce qu'on peut considérer que le titre d'un livre comme De l'assassinat, considéré comme un des beaux-arts, est un indicateur du fait que l'assassinat serait en voie d'artification? Non, là on est bien dans quelque chose de purement métaphorique qui n'a aucune traduction ni institutionnelle, ni juridique, ni etc. etc. Bon. Donc il fallait se méfier quand même du risque de la métaphore. Sur l'art de la conversation, je dois dire qu'on est resté un petit peu dans le flou. En revanche, il y a un cas qui m'a paru être un cas de désertification et que j'expose dans le livre, et qui est le cas de, du patrimoine sur lequel j'étais justement en train de mener une enquête quand, quand nous avons mené ce séminaire. Je travaillais donc sur l'inventaire du patrimoine qui a donné lieu à un livre qui s'appelle La fabrique du patrimoine, et j'ai réalisé en faisant ce travail que la notion de patrimoine a été constituée initialement autour de grands monuments historiques qui apparaissent de façon assez consensuelle comme des œuvres d'art, par exemple les cathédrales ou des grands châteaux, et que peu à peu, cette notion de patrimoine s'est étendue à toutes sortes d'autres objets beaucoup moins monumentaux, qui incluent par exemple des lavoirs, des fours à pain, des ponts, etc. etc. Mais même une borne Michelin, comme je l'indique en conclusion de mon livre. Et du même coup, on voit comment cette notion de patrimoine a glissé hors de la sphère de l'art pour s'agrandir bien au-delà de cette sphère. Et donc, d'une certaine façon, on assiste à une forme de désartification de la notion de patrimoine liée à son extension. Elle s'est tellement étendue que, d'une certaine façon, elle a perdu son ancrage initial dans la catégorie de l'œuvre d'art. Mais c'est un cas, je dois dire, un peu exceptionnel. Si vous avez d'autres cas de désartification, signalez-les-nous, parce qu'on est très, très avide d'en trouver d'autres. Pourquoi pas ? C'est dire que notre perspective était assez ouverte. Il ne s'agissait pas de démontrer a priori qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas de possibilité de désartification. Il s'agit simplement d'observer et de comprendre comment les gens s'y prennent pour accéder à un statut d'art et d'artiste lorsque, au départ, ce statut n'était pas donné. Voilà quelques mots pour présenter le livre.
Merci. Jean-Marie Schaeffer, de tout ce que vient de nous dire Nathalie Hennick, nous montre à quel point effectivement c'est un travail de sociologie pragmatique. Alors qu'est-ce qu'un philosophe, qu'est-ce qu'un théoricien peut puiser dans ce livre, puisque vous l'avez lu deux fois, vous m'avez dit.
Oui. Non, ça marche, c'est bon, très bien. Oui, je ne vais pas trop vous parler de ce qu'un philosophe peu en penser, parce que vous risqueriez de vous endormir, et puis les choses importantes ont vraiment déjà été dites. Je vais vite dire les quatre points qui, moi, me paraissent très importants du point de vue d'une réflexion philosophique sur l'art, mais plus généralement d'une réflexion philosophique sur les objets sociaux et les catégories culturelles. Le premier point, je crois que tout le monde l'a dit, c'est l'abandon d'une perspective essentialiste, c'est-à-dire qui est très répandu dans le domaine de la philosophie de l'art, en tout cas, qui était la question « qu'est-ce que l'art ?». Je connais le nombre de livres qui ont été publiés sous ce titre. Voilà, on n'a toujours pas trouvé la réponse. Donc, le pragmatisme américain, en l'occurrence Nelson Goodman, a proposé de remplacer cette question par « quand y a-t-il de l'art ?». Et vous faites référence dans votre livre à cette question-là, donc qui admet que l'ontologie de l'art puisse être intermittente. Certains moments, un objet fonctionne comme une œuvre, à d'autres moments, non. Et je pense que vous avez introduit quelque chose de plus, qui est la question, comment l'art advient-il ? Au sens de, quelle est la genèse qui fait que quelque chose passe au domaine artistique ? Ce qui n'était pas vraiment la question de Goodman, qui s'intéressait plutôt à des questions du genre, si je me sers d'un Rembrandt pour obturer une fenêtre, est-ce que c'est encore un Rembrandt ? Ou est-ce que, voilà, ça n'a plus rien à voir avec ça. Mais alors que ce qui vous intéresse, c'est quelque chose de beaucoup plus, je dirais, une dynamique sociale qui est beaucoup plus profonde. Le deuxième point, je crois que toutes les deux, vous en avez parlé aussi, en tout cas Nathalie, c'est qu'en même temps, avec ce mouvement, vous vous séparez de l'essentialisme, vous séparez aussi des théories de la légitimation pour adopter une perspective ontologique. Cela pourrait paraître contradictoire. On est plus essentialiste, mais on développe une ontologie, alors que les ontologies philosophiques sont très très souvent essentialistes, au contraire. Et je pense que c'est là où il y a un intérêt, au-delà des objets que vous étudiez, pour la philosophie, ou pour les questionnements ontologiques en philosophie, c'est que vous avez affaire à des objets sociaux qui ont une ontologie très particulière, et là aussi, vous le dites très clairement, c'est que c'est des objets dont le statut ontologique dépend, de manière non aléatoire, des représentations. Donc, la façon dont on représente l'objet est constituante de son ontologie. Searle, qui a beaucoup étudié cette question, donne l'exemple de la monnaie. La monnaie n'est que de la monnaie, pour autant qu'elle est traitée comme telle, qu'elle est utilisée comme telle, et cela veut dire pour autant qu'il y a tout un corpus de représentations partagées qui fait que tout le monde s'accorde pour dire que cette pièce de papier plus ou moins sale, eh bien, c'est quelque chose qui vaut autre chose. Et c'est vraiment un aspect très, très important pour, je crois, pour mieux avancer dans la connaissance de l'ontologie des objets sociaux sans tomber dans une sorte de pensée de l'arbitraire ou du relativisme absolu. C'est-à-dire toutes ces ontologies sont bien fondées, mais elles sont fondées dans des pratiques et dans des manières de se comporter à l'égard des objets et entre êtres humains. Le troisième point, c'est ça ressort bien de l'ensemble des textes de la première partie, c'est la diversité en fait des dynamiques d'artification selon les objets, selon ce que vous appelez les secteurs ou les domaines dont ils viennent, selon les opérateurs, selon les acteurs, ce qui vous permet d'échapper à un autre danger que la philosophie non naturaliste n'a pas toujours évité, c'est de remplacer les définitions d'un sens de l'art par une simple définition institutionnelle, en disant il y a une institution, elle décide. Une fois qu'elle a décidé, voilà, c'est un critère décisionnel. Si elle dit c'est de l'art, c'est un candidat à l'appréciation artistique, alors c'est de l'art. Et vous montrez que c'est des dynamiques très multiples où des agents et des acteurs très divers interagissent et essentiellement, c'est des processus contingents. C'est quelque chose dont, voilà, on ne peut jamais dire où ça... On voit d'où ça part, mais on ne sait jamais jusqu'où ça va aller, si ça va faire demi-tour, etc. Et puis le dernier point... c'est que devenir de l'art, évidemment, pour les acteurs, cela implique une valorisation positive. Mais du point de vue du sociologue ou de celui qui décrit, il n'y a pas d'évaluation reprise à son compte. C'est tout simplement, on décrit comment des collectivités humaines en viennent à évaluer des objets. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais à dire du point de vue philosophique. En fait, je peux dire encore une ou deux choses qui ne sont pas du tout, mais qui sont... Parce que ce qui me paraît vraiment important dans le livre, qu'on soit philosophe ou non, c'est que c'est une incitation à continuer à chercher d'autres formes et d'autres mises en artification. Et j'ai pensé que, par exemple, lorsque vous parlez des arts primitifs, c'est une artification par transfert culturel. Mais c'est un transfert culturel où on prend des objets dans une société qui n'a pas la notion d'art ou une notion apparentée et on les amène dans notre société dans laquelle cette catégorie existe déjà. Il existe d'autres cas où ce transfert culturel aboutit à une artification alors même que la société d'origine a... une notion équivalente, plus ou moins équivalente à notre notion d'art. Par exemple, ce qui est arrivé à l'estampe japonaise. Au Japon, on n'avait pas un système des arts, mais on avait des modes d'usage sociaux de certains objets qui sont plus ou moins fonctionnent de la même manière que dans notre civilisation, les usages artistiques. Pourtant, la stampe n'était pas considérée comme relevant de ces arts-là. C'était une sorte de pratique un peu, c'était plus proche de notre bande dessinée, en fait. Et ça a été artifié, parce qu'il ne faut surtout pas que j'emploie le mauvais terme. Donc, ça a été artifié à travers le transfert culturel. En venant en Europe, et puis c'est retourné au Japon, et ça a été intégré, d'ailleurs avec des difficultés au début, dans leur propre canon, disons, culturel. Un autre, c'est le dernier, je m'arrêterai là, je me suis demandé, parmi les effets de l'artification, vous dites qu'un des effets, c'est l'esthétisation. Et donc, selon votre hypothèse, toute artification implique esthétisation. Il me semble que c'est... Voilà, que je dirais aussi quelque chose de ce genre. Mais à l'inverse, il n'est pas vrai que toute esthétisation aboutisse à une artification. Il y a beaucoup d'activités humaines qui sont plus ou moins esthétisées sans devenir des arts. Et donc, je me suis demandé, est-ce que l'esthétisation est... est-elle toujours un effet de l'artification ou est-ce qu'elle pourrait aussi être un des facteurs qui vont amener à l'artification? Je crois qu'il y a, il n'y a pas de texte. Est-ce qu'il y a un texte sur, si, il y a un texte sur la mode. Oui, il y a un texte sur la mode. Et voilà, voilà. Et j'ai pensé au, justement au champ du vêtement. Le vêtement, l'habillement, est esthétisé depuis, enfin, dans presque toutes les cultures, mais l'artification est quelque chose de très récent et d'ailleurs de très instable dans notre propre culture. Voilà, donc c'est des questions de ce genre que moi je me pose à partir de votre livre et voilà, je crois que c'est ça qui en fait la richesse.
Peut-être je peux ajouter un mot à ce que vient de dire Jean-Marie, parce qu'on s'est posé beaucoup cette question de l'esthétisation qui revenait tout le temps, mais c'est vrai que l'esthétisation ne suffit pas elle-même à constituer une pratique comme artistique. Par exemple, l'art des bouquets. Bon, on dit art des bouquets, mais personne n'a été promu artiste en bouquet. On n'a pas, enfin, c'est vraiment frontière. De même, pour ce qui est de la mode, et de même aussi, enfin, pour toutes sortes d'exemples, on s'est aperçu qu'une des conditions nécessaires pour qu'il y ait artification, c'est qu'il y ait un minimum de durabilité de l'objet, c'est-à-dire que l'objet soit fixable, transportable, non éphémère. Hein. D'ailleurs, c'est un des grands critères de différence entre les métiers d'art et les métiers non-art, comme l'a bien montré Michel Melot, cette question de l'éphémère, hein, qui est absolument fondamentale. Donc voilà, il y a un certain nombre de critères, tu le dis très bien Jean-Marie, il y a une ontologie que l'on découvre peu à peu, hein, qui fait que tout n'est pas artifiable, même si beaucoup de choses le sont, parce qu'il y a des obstacles à l'artification. Alors, par exemple, si ce sont des pratiques essentiellement enfantines, par exemple, la BD a dû se sortir de l'enfance pour pouvoir être un bon candidat à l'artification. Si ce sont des pratiques liées à des milieux très populaires, par exemple le cinéma des origines, qui était totalement prolétaire et qui a dû donc sortir des fêtes foraines prolétaires pour pouvoir devenir quelque chose qui pouvait ressembler à de l'art, etc., etc. Donc on fait la liste, hein, dans la postface de ces opérateurs d'artification. Mais en effet, la question esthétique doit être absolument dissociée de la question artistique d'un point de vue ontologique, même si elles sont de fait très communément associées.
Permettez-moi d'être quand même un peu étonné sur votre affirmation quant à l'éphémère. Parce que il y a beaucoup d'art largement admis, y compris dans votre livre, qui sont des arts de l'éphémère. Le spectacle vivant, c'est un art de l'éphémère. Et voilà, aujourd'hui, il y a des captations cinématographiques, vidéo, des représentations théâtrales, mais pas de toutes. Et puis, ça voudrait dire que Molière, dont on n'a aucune captation, n'était pas un artiste.
Puisque... Non, là je pensais simplement, j'aurais dû le préciser, à des fabrications d'objets qui sont éphémères. Une mise en scène de théâtre ne fabrique pas un objet, elle crée un moment, hein, elle crée une certaine organisation spatiale, temporelle, de gestes, de mots, etc., de mouvements, bon, mais elle ne fabrique pas un objet. Ouais, c'est lorsqu'il y a fabrication d'un objet éphémère que là, la question de l'artification est quand même très problématique. Mais là, vous avez raison, la différence entre ce que Nelson Goodman appelait les arts autographiques et les arts allographiques, c'est-à-dire notamment le spectacle vivant, est importante, mais n'est absolument pas constitutive de l'artification, puisque non seulement le spectacle théâtral, mais même la mise en scène de théâtre en tant que mise en scène a été artifié, comme le montre Serge Proust dans son article.
Mais par rapport aux objets, il y a aussi des objets éphémères. Est-ce qu'on les refuserait, par exemple le mandala, est-ce qu'on leur refuserait le statut d'art, d'œuvre d'art, uniquement parce qu'ils ne sont pas destinés à la pérennité?
C'est assez problématique. Je ne connais pas exactement de ce point de vue-là le statut du mandala dans sa culture d'origine. Et là, on aborde la question dont parlait Jean-Marie des transferts. Mais il y a une anecdote assez amusante. Je ne sais plus si c'est dans le livre ou dans une des interventions dans notre séminaire. Mais quelqu'un qui avait travaillé sur la Biennale de Lyon racontait que lorsqu'il a fallu déplacer...
Si, c'est dans le livre.
C'est dans le livre. Lorsqu'il a fallu déplacer un mandala qui avait été créé pour la Biennale de Lyon, il a fallu faire appel au service des pompiers spécialistes des grands brûlés pour pouvoir déplacer ce mandala sans le modifier. Donc voilà, bon, c'est une anecdote parmi d'autres, mais pour montrer combien le fait de pouvoir simplement mettre ce mandala dans un musée, qui est quand même, le musée étant un opérateur d'artification fondamentale, exige des savoir-faire et des manipulations extrêmement complexes, beaucoup plus que bien sûr lorsqu'il s'agit de prendre une peinture et la mettre dans un musée.
Mais même concernant la mise en scène, l'article Serge Proust dans son article montre la fragilité tout de même du statut artifié du metteur en scène à cause de l'immatérialité de la mise en scène et du statut éphémère de la mise en scène. Et donc ça participe de la difficulté de l'artification. En tout cas en Occident.
Mais c'est important cette notion d'Occident parce que vous le dites bien dans le livre que vous situez cette problématique dans un cadre occidental. Et c'est vrai que vous avez amené une autre dimension tout à l'heure, mais parce que c'est vrai que alors ça serait peut-être d'ailleurs intéressant d'étudier une sorte d'extension de la problématique sur ces importations d'autres cultures, parce que on a vu programmer dans des festivals artistiques ici en France des objets qui sont pas forcément dans leur culture d'origine vécus comme artistiques. Je pense au tasier iranien, par exemple, qui a été programmé au festival d'automne et qui au départ est finalement une manifestation religieuse. On retrace l'histoire de la vie du prophète, etc. Avec effectivement, mais c'est une mise en scène. Il y a de l'art équestre, il y a beaucoup de choses mises en jeu, mais au départ, les gens qui pratiquent ça ne se vivent pas du tout comme artistes. Voilà, on a parlé du mandala, on pourrait parler de la cérémonie d'une dup en Afrique occidentale, où il se passe quelque chose de collectif dans les villages qui utilise la musique et la transe collective, mais qui est plus vécu comme une sorte de psychothérapie collective. Que comme un moment artistique. Et pourtant, ça met en œuvre de la création musicale, de la danse, etc.
C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'exclure tous les domaines non occidentaux. D'abord parce que nous les connaissons mal et qu'il faut vraiment avoir une connaissance très très fine d'une culture pour comprendre précisément comment les choses se jouent, mais aussi parce qu'on aurait accumulé des exemples de transferts culturels qui nous auraient raconté plein de fois comment tel objet de type religieux ou culturel devient un objet culturel ou artistique en étant transporté dans notre monde occidental. C'est une problématique intéressante, mais qui est déjà assez bien connue, assez souvent traitée par les anthropologues. Donc voilà, comme on voulait faire du nouveau, on a essayé d'éviter cette problématique.
Est-ce que je peux rebondir un peu sur l'éphémère, mais je suis désolé, encore dans une perspective plutôt comparative. Le bouquet de fleurs au Japon, c'est un art majeur, et pourtant c'est éphémère. Donc ça dépend peut-être aussi de la tolérance qu'une culture a à l'égard de l'éphémère, enfin des objets éphémères. Est-ce qu'on accepte facilement que quelque chose disparaisse vite, et est-ce qu'on accepte de donner autant de valeur à quelque chose qui est destiné à disparaître vite ou non. Mais je suis tout à fait, enfin, comme vous deux, je pense que c'est très difficile de s'engager dans une perspective comparative, mais peut-être que la distinction qui, plusieurs auteurs l'emploient, je crois, entre ars, enfin le terme latin, et art, permettrait peut-être de comprendre les relations complexes, parce que si nous avons tendance à considérer les masques comme des œuvres d'art, c'est aussi parce que du point de vue de l'ars, la façon dont ces objets viennent au monde, ben, il y a les mêmes gestes, le même faire que nos sculpteurs. De même, le mandala, ben, c'est quelque chose qui se voit, qui est aussi étalé en deux dimensions. On peut le voir, on le voit dans un tout autre cadre avec une toute autre intentionnalité, mais il y a quelque chose du point de vue de l'ars qui fait qu'on peut le mettre en relation avec la peinture. Et je crois que la difficulté, c'est de ne pas confondre ces deux dimensions qui sont très très différentes. Et c'est la deuxième art qui est une catégorie ontologique, mais pas la première, qui est une catégorie génétique et qui a sens dans l'étude des pratiques créatrices humaines au sens vraiment très très large du terme. Enfin...
Oui, ça a été un autre problème quasi sémantique auquel on s'est affronté. C'est, on ne pouvait pas considérer qu'il y avait artification uniquement parce que une pratique était considérée comme de l'ars au sens du savoir-faire, de la technique, et était qualifiée comme telle. On connaît la proximité sémantique entre ars et art. On aurait pu appeler notre livre de l'ars à l'art, mais sauf que ça aurait un petit peu réduit la problématique, puisque le passage de l'ars à l'art n'est qu'une des dimensions de l'artification. Hein, voilà. Voilà, donc on a évité ça. Mais c'est vrai que c'est une question. C'est, là, il y a une frontière extrêmement complexe, assez ténue. Et
c'est peut-être là que se joue le débat sur les arts premiers, non ?
Pas seulement. Entre autres, mais ça n'est qu'un des aspects. C'est aussi un débat très lié au postcolonialisme, à l'importation ou l'imposition de critères de la société culturelle occidentale dominante. Enfin bon, c'était un débat un peu plus complexe, mais en effet, il y a une dimension de cet ordre-là.
Si il y a des questions dans la salle, peut-être. On a encore quelques minutes.
Oui, bonjour. Vous parlez d'artification. Je me demandais, artification, est-ce que vous avez mis plusieurs niveaux à l'artification? Comment dire? Disons que, par exemple, certaines personnes vont considérer qu'elles font quelque chose qui est de l'art, mais si elles présentaient leur travail au Centre Pompidou, on ne le considérerait pas comme de l'art. Donc, est-ce que vous avez, dans votre livre, questionné justement ces différentes visions de l'artification selon... je ne sais pas si j'ai envie de dire les milieux, les gens.
Nathalie, vous répondez ?
Je crois que c'est un peu... Merci beaucoup pour la question. Je crois que c'est un peu ce que disait Nathalie tout à l'heure sur la différence entre artification et légitimation. Finalement, on ne s'est pas tellement intéressé à cette question-là dans notre livre parce que ça renvoie à la question de art mineur, art majeur. Et donc, je pense que c'est, si j'ai bien compris, c'est un peu à ça que vous faites allusion. Donc, ce n'est pas tellement notre propos. Nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que c'est considéré par la société comme de l'art ? Ou est-ce que, si vous voulez, la différence, si je retourne à l'exemple de la danse hip-hop, ce qui était intéressant dans l'exemple de la danse hip-hop, c'est que c'est passé à quelque chose qui était complètement en dehors du monde de l'art. C'était un jeu d'enfant, un jeu d'adolescent. Et au bout de toute une série de transformations, sur une quinzaine d'années, ça a été transformé en quelque chose qui était de la danse et qui était représenté sur une scène. Donc de quelque chose qui était un jeu entre des enfants et sans public et quelque chose qui était regardé par un public.
Ce qui ne signifie pas que ça a été forcément légitimé, voilà, par l'institution. Parce que ce que raconte Roberta dans l'avant-propos, ça suppose qu'il y a une part de l'institution qui avait reconnu un intérêt et qui était prête à légitimer. Mais ce n'était qu'une part de l'institution. C'était réputé comme étant une recherche. Quand on a créé les rencontres de la Villette, d'ailleurs, la question sur les toutes premières rencontres qui étaient des rencontres des danses urbaines, c'était justement ce débat-là, c'est-à-dire de dire faisons un état des lieux, mettons les gens sur scène, confrontons-les à des publics, à des experts, à des institutionnels, à des programmateurs, à des journalistes, etc., et à leurs pairs aussi, pour évaluer justement le degré de valeur artistique, on va dire, de ces pratiques. Et on va dire que l'artification des danses urbaines a quelque sorte précédé la légitimation d'une certaine façon, et qu'il y a encore quelques années, alors que déjà c'était largement admis dans la société qu'il s'agissait d'expression artistique, il y avait encore, et il y a peut-être encore, je pense qu'ils osent moins le dire, mais ils doivent le penser toujours très fort, des programmateurs, des directeurs de festivals qui disaient « moi je ne programmerai jamais de danse hip-hop parce que ça serait de la démagogie ». C'est vraiment des propos que j'ai entendus par des professionnels dans des réunions publiques, et il n'y a pas très longtemps. Donc là, on voit bien que les deux choses peuvent entrer en confrontation.
Si je peux juste ajouter un petit mot, c'est une question très importante à laquelle on s'est heurté aussi. C'est que pour qu'un phénomène existe, il ne suffit pas que quelques personnes le constituent ou le perçoivent comme tel. Il faut qu'il y ait un collectif d'abord, et puis des institutions, une stabilisation, etc. Donc on ne peut pas considérer qu'il y a artification dès lors que quelqu'un dit « moi je fais de l'art ». Bon, c'est clair. Il faut que ce « moi je fais de l'art » puisse être repris en charge par, encore une fois, des inventions sémantiques, le droit, les institutions, etc. Et je vous donne juste l'exemple du graffiti qui est extrêmement intéressant et qui est traité dans le livre par Marisa Liebo. Là, on a vraiment affaire à une pratique qui, au départ, est une pratique illicite, donc qui peut emmener les auteurs en prison. Et illégal. Et plus qu'illicite, oui, illégal. Et qui, en très peu de temps, devient une pratique, disons, à certaines conditions très particulières, considérable, c'est-à-dire susceptible d'être considéré comme œuvre d'art, mais à certaines conditions très particulières. Donc au départ, on a eu certainement des jeunes artistes qui ont fait du graffiti urbain en disant « moi je suis artiste, moi je fais de l'art ». Sauf qu'ils étaient tout seuls à le dire et que ça ne suffisait pas à artifier la pratique. Pour l'artifier, il a fallu que lorsqu'ils vont au commissariat parce qu'on les a pris en train de bomber dans la rue, l'un d'eux dise « attendez, mais j'ai une exposition dans la galerie à côté » et que du même coup, au lieu qu'on leur dresse un procès verbal, bon, on les laisse sortir par exemple. Vous voyez ce genre d'anecdotes extrêmement révélatrices qui montrent comment peu à peu ce phénomène devient un phénomène qui prend une consistance tel qu'on peut dire qu'il y a artification. Par exemple, il y a des ouvrages qui se publient sur le graffiti, il y a des expositions dans des musées, des galeries, on dépose les graffitis pour les transporter de façon à ce qu'ils puissent entrer dans un marché, etc. Enfin, toutes sortes de critères. Voilà. Donc, encore une fois, il ne suffit pas que quelqu'un dise « moi, je suis artiste » pour que ça marche. Ce serait trop facile.
Il y a une question là.
Il y avait, je crois, des cultures ou des courants ou des couches sociales qui appelaient à faire de sa propre vie une œuvre d'art. Est-ce que cela est encore court ou est-ce qu'il y a des artifications?
C'est exactement la question du dandysme qui a été quelque chose de très important au XIXe siècle, puisqu'on a, pu dire que le dandy est celui qui fait de sa propre vie une œuvre d'art. Bon. Et ça a été en effet une modalité d'être qui a eu son importance à une certaine époque, qu'il a, je crois, beaucoup moins aujourd'hui, qui s'est peut-être transposé sur d'autres domaines. Mais là encore, il faudrait qu'il y ait une institutionnalisation, une reconnaissance collective, officielle, etc., de la vie de quelqu'un comme une œuvre d'art. Celui qui a, à mon avis, le plus approché de cela, c'est Marcel Duchamp, qui a vraiment fait en sorte que le travail créatif ou créateur plutôt, se déplace de la production de l'œuvre à la production d'une légende entourant la personne. Bon. Mais ça reste un cas vraiment exceptionnel. Donc, bon. Oui. Et unique, oui. Alors, est-ce que les sapeurs aujourd'hui, vous savez, ces Noirs qui pratiquent une culture extraordinairement développée de la mode extrême, de l'élégance extrême, est-ce qu'ils sont les dandys d'aujourd'hui, peut-être? Mais bon, ça reste des phénomènes marginaux qu'on voit passer comme ça dans la rue. Mais je ne pense pas qu'ils atteignent le statut ontologique d'artiste au sens fort du terme. Ils ne se produisent pas sur des salles, ils n'en vivent pas. C'est quand même un critère fondamental. Pour être artiste, c'est la dimension de professionnalisation dont parlait Roberta. Il y a un moment où il faut en vivre aussi. Voilà. Et pas seulement vivre, tout court.
Une autre question là. Ah, il y en avait déjà une là-bas.
Quid du grand sportif, de l'élégance du geste et de la perfection de sa discipline et de sa maîtrise?
On peut parler d'esthétisation éventuellement, mais le sportif, vous venez de le dire, il se définit et il est défini par les autres comme sportif. Je ne connais pas de sportif artiste consacré par la société comme tel. Je ne sais pas si vous...
Et pourtant, il y a ce qu'on appelle le nouveau cirque, où il y a des gens qui sont dans la performance physique, et je dirais même que dans la jeunesse de la danse hip-hop, c'est passé beaucoup par la virtuosité, la performance physique proche de l'acrobatie, et puis les acrobates du nouveau cirque, et puis le chapitre qui est consacré aux arceaux et aux trapèzes dans le livre en parle aussi assez bien. On voit bien quand même qu'à un moment donné, quelque chose qui est très proche de la performance sportive glisse, est dans un processus d'artification.
Oui, avec là encore un autre mot auquel nous nous sommes heurtés, parce que c'est un élément important, c'est la virtuosité. C'est-à-dire que dans les arts de spectacle vivant, de même que dans certains sports, on a un niveau d'excellence extrême qu'on appelle la virtuosité. Mais la virtuosité ne suffit pas à faire un grand artiste. Il est clair que bon, ça permet de faire un praticien hors du commun, mais la virtuosité peut même être, dans certains cas, un obstacle à la reconnaissance comme artiste, dès lors qu'il n'y a que l'ars, hein, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire une technique poussée à l'extrême. Et c'est vrai que dans ces pratiques-là, pour qu'il y ait vraiment considération, enfin, qu'on puisse dire un tel est un grand artiste, il faut qu'il y ait un peu plus que de la virtuosité. Ça fait partie des petits mystères ontologiques que nous avons découverts.
Mais là aussi, il y a des glissements qui sont imperceptibles, c'est-à-dire que on parle de virtuosité, la virtuosité c'est proche de la performance. En matière de sport, on parle plus de performance, et aujourd'hui le mot performance est repris dans le milieu artistique très fortement dans les milieux d'art de la rue et de la danse, on parle de performance.
Vous vous souvenez de la Une de Libération quand Mitterrand a été réélu, salut l'artiste. Bon, c'est quand même, ça veut dire à quel point le terme artiste est devenu gratifiant, valorisant dans notre société, mais ça ne suffit pas à faire de François Mitterrand un artiste.
Non, là on est dans la métaphore là pour le coup.
Complètement dans la métaphore. C'était aussi un des pièges hein, de notre travail, de s'opposer au glissement métaphorique et d'essayer de traquer la différence entre une simple métaphore et un véritable processus concret.
Madame ?
Donc, ça m'intéresse beaucoup, les questions actuelles, je travaille sur ça. Mais je voudrais d'abord souligner deux phrases, ça veut dire l'homme des terrains, Et travailler en situation réelle. Je pense que c'est très important. L'homme des terrains m'a beaucoup fascinée parce que c'est lui qui a parlé d'une situation réelle, très réelle. Ces jeunes qui s'affirment artistes et qui s'imposent dans une maison qui veut donner un espace pour eux. Donc, et qui se considèrent comme artistes. Et les travaux en situation réelle, je pense que ça a été un problème de l'histoire de l'art, justement, de ne pratiquement n'est jamais travaillé sur la situation réelle. Donc là, je pense qu'on rentre dans une période, j'ai l'impression, où on va travailler sur le terrain et sur la situation réelle. Je voulais dire, c'est que vous n'avez pas cité, peut-être pour lamenter de ces problématiques, le fait que les artistes, eux, c'est eux qui se sont engagés d'abord pour donner une reconnaissance, peut-être que l'artiste peut être un homme ordinaire. Donc, et je pense que c'est important de penser que l'artiste peut être un homme ordinaire, c'est lui qui s'expose peut-être par les sensibles, et donc il y a une catégorie d'activités. Et je pense que les mouvements des artistes, des associations d'artistes, des lieux d'artistes qui ont exposé dans la Biennale, qui ont créé, par exemple, les frappes et des choses comme ça, il est aussi important, à mon avis, pour que vous puissiez accéder au travail sur la situation réelle, et qu'un homme des terrains peut vraiment, avec beaucoup de connaissances, parler de l'artiste ordinaire. Moi, je pense que l'artiste n'est pas, en général, il y a très peu d'artistes qui sont des grands artistes, comme vous avez parlé, Natalia Iné, je pense que ce n'est pas important dans un certain sens, de considérer l'artiste en général, mais justement, qu'est-ce que c'est qu'un artiste ordinaire ?
Je pense que le fait même qu'on se pose la question est le signe de l'extraordinaire assomption de l'artiste dans la hiérarchie des activités, puisque il est devenu tellement synonyme d'un être extraordinaire qu'il faut réaffirmer qu'il peut aussi être un homme ordinaire. Voilà.
J'espère qu'il n'y a pas d'ambiguïté, parce que je me suis qualifié d'acteur de terrain, mais certainement pas d'artiste.
Je ne dis pas que vous êtes un artiste, je dis que vous parlez comme un homme de terrain, et je pense que c'est très important de parler aussi comme un homme de terrain, et à partir des situations réelles, justement, et pas d'un discours sur l'art qui se répète toujours le même.
Bonsoir. Est-ce que vous pensez que l'artification est un processus naturel, socialement juste?
Si je peux me permettre, tout dépend de la définition qu'on donne de la justice. Si vous avez en tête la question de l'égalité, l'artification dans notre société implique une forme de légitimation, hein, c'est ce qu'on a dit, puisqu'il y a quand même une valorisation attachée à l'art et donc une forme d'inégalité. Donc c'est un des grands problèmes aujourd'hui des milieux cultivés, qui est de gérer cette question de la tension entre une exigence d'égalité et une exigence d'excellence artistique. C'est ce dont je traite dans un livre qui s'appelle « L'élite artiste ». Je ne pense pas qu'il faille aborder la question de l'artification dans une perspective de privilège accordé à l'égalité, parce que là, évidemment, on va être extrêmement déçus. Voilà, je ne sais pas si c'est le sens de votre question. Mais cela dit, la justice ne se limite pas à l'égalité. La justice est plutôt construite comme une forme d'équité, et l'équité est beaucoup plus générale que l'égalité. L'égalité n'est qu'une des formes possibles de l'équité. Donc, par exemple, le fait de donner plus à ceux qui ont moins est très inégalitaire, mais c'est une forme d'équité. Hein. Voilà, donc je crois qu'il faut surtout éviter de limiter notre notion de justice à la notion d'égalité, et de penser que accorder plus de reconnaissance à des gens qui ont plus de mérite parce qu'ils travaillent mieux ou parce qu'ils font de meilleures performances ou qu'ils nous proposent des spectacles plus intéressants n'est pas injuste, au contraire, c'est une forme de justice. Voilà. Je crois qu'il faut vraiment détacher la notion de justice de la notion d'égalité. C'est un des grands combats politiques, je pense, qu'il faut mener aujourd'hui, et qui n'est pas du tout un abandon de la notion de justice ou d'équité, mais une relativisation de la place de l'égalité comme critère de justice.
Jean-Marie Schaeffer.
Il est tard. Je ne sais pas si c'est juste, mais il me semble qu'il ne faut pas oublier qu'un des effets de l'artification, ou lorsque quelque chose devient art, c'est que cela a des effets en retour sur le côté ars, au sens où être de l'art est une manière qui incite à développer le répertoire des manières de faire. Donc, ce n'est pas simplement qu'une partie des manières de faire dites banales passent dans un statut ontologique différent et donc sont valorisées pour cela. Effectivement, bon, chacun en pensera ce qu'il veut, mais je crois que les vrais effets, c'est que à partir de ce statut-là, eh bien, cela incite les gens qui ont ce statut à enrichir les manières de faire, ne serait-ce que pour se différencier des uns des autres, pour continuer à avoir à être considéré comme artiste. Et donc ça produit un enrichissement, peut-être pas voulu, on ne sait pas quelles sont les motivations des uns et des autres, mais un enrichissement affectif de nos manières de faire. Et ces manières de faire sont partageables au-delà des artistes. Et je crois que c'est en ce sens-là, l'art peut être justifié indépendamment de ce qu'on pense par ailleurs de l'importance ou non qu'il y ait des activités légitimes et d'autres pas légitimes. C'est parce que ça a des retours sur nos manières de faire quotidiennes.
Donc il y a des effets artistiquement vertueux de l'artification.
Une question.
Oui, une question. En fait, je m'interroge sur l'objet de culte, en fait, en vous écoutant. Et l'idée me venait par rapport aux objets de culte qui existent dans les sociétés totalitaires. Et en fait, je me dis, bon, voilà, par exemple, en fait, si on prend la statue de Lénine, de Staline, on est finalement dans des objets voilà, qui représentent des choses et qui donc sont pérennes, qui sont faits pour durer et qui font l'objet d'une adhésion collective. Mais après, voilà, on va en fait les enlever, même les cacher. Et je ne sais pas si... Là, on est dans une désartification. Où est-ce qu'on est ailleurs? Mais en tout cas, c'est une question qui m'intéresse et peut-être que vous pourriez m'aider à trouver une réponse.
Y a-t-il une artification stalinienne?
On est surtout dans le déboulonnage. Hein. C'est surtout ça. On déboulonne parce que l'objet, ou plutôt le référent de l'objet, a perdu de son statut éminent, hein, et donc l'objet qui le représente perd de sa valeur, mais perd de sa valeur non pas en tant qu'œuvre d'art, mais en tant que monument, hein, ce qui n'est pas la même chose. Et il est possible d'ailleurs que, il ne garde plus de valeur qu'artistique, c'est-à-dire qu'il passe dans un musée, hein, parce que il sera considéré non plus comme la représentation de Lénine, mais comme l'œuvre du sculpteur machin. Hein. Donc le déboulonnage n'est pas forcément synonyme de désartification. Voilà. Il faut regarder cas par cas.
La reconnaissance de statut d'œuvre dans les sociétés staliniennes, on était peut-être plus dans des problématiques de légitimation, pour le coup, que dans des problématiques d'artification, non ?
Cela dit, on a dit qu'on s'en tenait aux sociétés occidentales. Cela dit, dans un autre article sur l'artification, on a quand même pris quelques exemples dans des sociétés non occidentales. Et entre autres, on a utilisé un article de Pierre Sanslivre sur l'Afghanistan et sur les statues du Bouddha.
Les fameux
Bouddhas. Et un article passionnant de Pierre Sanslivre, qui est anthropologue à Neuchâtel, et qui essaye de comprendre toute cette affaire extrêmement compliquée du dynamitage des statues de Bamiyan, et où le statut d'art et de patrimoine de ces statues était quand même en jeu. Et bon, et là on voit, il y a probablement des parallèles avec ce que vous mentionnez sur les statues de Staline ou de Lénine, que je ne connais pas bien, mais là on voit tout, il y a le statut d'art et l'instrumentalisation politique là. Évidemment, qui fait partie aussi de ces problématiques de ce statut d'art contre des minorités ethniques, contre à l'intérieur du pays, contre des intérêts occidentaux. Enfin bon, là, il y a des choses intéressantes aussi à analyser.
Question.
Oui, non, je voulais revenir juste sur votre remarque concernant la professionnalisation qui serait un sorte de signe de l'artification. En fait, je comprends pas, j'ai pas lu l'ouvrage, donc j'imagine que vous abordez ça, mais en fait, pour moi, ça exclut de fait, du coup, la pratique amateur, ce qui me semble un peu compliqué, justement, par rapport à tout ce que vous énoncez comme sur les signes de l'artification, puisque c'est dans la pratique amateur. Par exemple, en 98, à mon avis, peu de danseurs hip-hop gagnaient leur... avaient des cachets quand ils passaient. Ne parlons pas ici de la légalité des choses, mais en tout cas, à mon avis, ils ne vivaient pas de leur pratique de danseur quand ils passaient en 98. Or, il y a eu un choc de votre part à la vision donc, de ces danseurs. Voilà, donc, mais peut-être vous avez dit ça un peu vite. Ou, voilà, est-ce qu'on peut juste revenir? Parce que pour moi, c'est un peu important dans le processus. Et c'est justement ce qui empêche, je ne sais plus qui, au début du débat, parlait des freins à l'artification. Il y a notamment l'enfermement des professionnels, justement, qui se protègent contre l'artification de ceux qui seraient non professionnels. Voilà, si on peut juste revenir.
Moi, j'avais bien pris soin dans la présentation de dire que effectivement, il y a un point d'achoppement sur cette histoire de professionnalisation, parce que dans le livre, vous dites, je citais que la professionnalité n'est nullement un gage d'articité et que l'existence de pratiques amateurs n'est pas, bien au contraire, un empêchement à la reconnaissance au titre d'art. Donc simplement, je crois que ce que vous prenez comme référence, c'est la professionnalisation, c'est-à-dire la tendance vers l'état de professionnel plutôt que le fait d'être professionnel, non ? Je me trompe ?
Non, c'est simplement pour dire que dans presque toutes les, je pense que dans toutes les disciplines, c'est un des processus qui tend à contribuer à l'artification. Donc c'est le cas pour la danse hip-hop. La marche vers l'artification des peintres à la Renaissance, c'est ce que montre le travail des historiens d'art et le travail de Nathalie. Je pense que pour les metteurs en scène étudiés par Serge Proust, je pense que dans une grande partie des exemples étudiés ici, la professionnalisation fait partie d'un des processus qui contribue à l'artification.
Je crois que la remarque de Philippe est très juste, c'est-à-dire qu'il faut différencier l'état et le processus, c'est-à-dire que dans une pratique déjà artifiée, la question ne se pose pas de la même façon que dans une pratique qui ne l'est pas encore. En fait, la professionnalisation est un critère d'artification dès lors que la pratique n'existait qu'en amateur. C'est-à-dire une pratique qui n'existe qu'en amateur, il y a très peu de chances qu'elle puisse être considérée comme artistique. Prenons l'exemple du graffiti, hein, ce qui est un bon exemple. Hein, elle a commencé à s'artifier dès lors que certains ont pu en vivre. Bon, voilà. Donc c'est pas parce qu'il y a des amateurs qu'il n'y a pas de statut artistique, bien au contraire. Hein. C'est s'il n'y a que des amateurs que très probablement l'artification n'est pas encore accomplie. Je crois que c'est comme ça qu'il faut.
On a encore un peu de temps. Juste peut-être une question un tout petit peu plus politique sur l'artification. J'ai pas entendu parler du rapport entre l'artification justement et la marchandisation, notamment par rapport à toutes les cultures dites émergentes qui, à mes yeux, à moi, ont peut-être à certains moments été aussi regardées par le prisme de « il ne serait pas inintéressant de valoriser ces jeunes, sinon ça risque de péter dans la cité ». Et est-ce qu'il n'y a pas à certains moments quand même des critères marchands, quand même on est quand même dans une période politique là où il y aura des échéances très très vite, et où je crois que ça c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, est un enjeu central, je crois, dans la société que nous traversons, et je ne suis pas sûr que ce soit au cœur de la campagne électorale, j'en entends pas beaucoup parler, et là vous parlez donc d'artification, c'est extrêmement enrichissant, mais est-ce que dans votre réflexion, cette question-là transparaît dedans, ou est-ce que vous en faites complètement l'économie, je dirais, en vous disant, bon, nous on est ailleurs, on n'est pas dans la marchandisation, on est plutôt dans la reconnaissance de l'art, enfin, de tout ce que vous avez pu évoquer tout à l'heure.
C'est vrai que un des acteurs importants en France, c'est le soutien de l'État. Et parfois, ça veut dire un contournement du marché. Par exemple, pour les metteurs en scène, à partir des années 60, ça voulait dire la promotion du poste de metteur en scène, ça voulait dire la neutralisation des règles du marché. Pour les danseurs hip-hop, le soutien de l'État, là aussi, ça voulait dire... si on compare le rap et la danse hip-hop, le fait que la danse hip-hop a été soutenue beaucoup par l'État, alors à tous les niveaux, hein, des collectivités territoriales jusqu'à l'administration centrale, ministère de la Culture, ça voulait dire que il y avait une autre économie et que la danse hip-hop a connu une économie d'un autre type, alors que le rap passe par le marché privé plus. Maintenant, alors effectivement, la situation est autre. Le soutien de l'État est, dans ces disciplines-là connaît un peu un moment, un mouvement de baisse. Cela dit, le passage par le marché, c'est souvent un moment de confirmation. De l'artification. Par exemple, pour l'art brut, le moment où l'art brut passe dans le marché de l'art, c'est un peu la confirmation et la consolidation de la consolidation de son artification. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Nathalie, tu as
c'est, moi, je crois qu'il y a, en fait, il y a une contradiction et qui rend la question de l'art si passionnante et si complexe, c'est que dès lors qu'il y a artification, il y a valorisation, et donc du même coup, enchérissement sur le marché à partir du moment où, où l'œuvre, s'il y a œuvre, passe sur le marché. Donc ça, c'est un premier élément. Mais il y a un élément totalement opposé, qui est que pour que dans notre société, une pratique artistique soit considérée comme authentiquement artistique, il faut qu'elle soit faite pour autre chose que le but de gagner de l'argent. Il faut qu'elle ait comme objectif l'enrichissement spirituel, l'expression de son auteur, le partage du sensible, comme dirait Rancière, etc., etc. Je vous donne l'exemple du cinéma. Pour que la notion d'auteur et donc d'artiste créateur de cinéma a pu exister, il a fallu que s'impose l'idée que l'on pouvait faire des films pour d'autres raisons que gagner de l'argent. Ça a été absolument fondamental dans la politique des auteurs. On n'était plus dans l'idée de faire des grands films qui marchaient très, très bien pour le grand public. On était dans l'idée qu'un film devait à la fois exprimer la vision du monde de son auteur et rencontrer les visions du monde des spectateurs. Et donc, le découplage entre le marché et l'art est constitutif de la légitimation, là pour le coup le mot est justifié, de l'art, et en même temps l'artification implique valorisation, donc marchandisation. On est vraiment dans une contradiction constitutive du statut de l'art dans notre société.
Je crois que dans la question de monsieur, il y avait aussi la question de l'instrumentalisation. Et effectivement, puisqu'on parlait des cultures urbaines, etc., on peut dire que c'était dans l'arrière-pensée des décideurs politiques d'acheter une certaine paix sociale à reconnaître ces expressions artistiques-là. Je pense qu'on n'échappe jamais au rapport de force. Et qu'il y a peut-être eu des rapports de force de ce type, mais dans toutes les catégories d'art et dans le monde culturel, il y a des rapports de force. C'est-à-dire qu'il y a des lobbies, il y a des corporations, je crois qu'on peut le dire comme ça, qui défendent leur bistec et qui entretiennent des rapports de force. Et on a vu des corporations professionnelles dans le monde de la culture faire tomber des ministres de la culture il y a quelques années. Donc le rapport de force, il existe. On ne peut pas le nier, et sans doute il joue dans les processus de reconnaissance sociale et donc indirectement dans les processus d'artification. Mais je ne faudrait pas, à l'inverse, réduire un processus d'artification à son instrumentalisation, il me semble.
On va peut-être prendre deux dernières questions.
Bonsoir. Je voulais en fait questionner peut-être une autre frontière, c'est la frontière entre l'art et le divertissement. Et il me semble que la télévision peut poser peut-être pas mal de problèmes. Et à vous écouter, notamment au niveau du statut juridique, ça m'a rappelé une histoire qui s'était passée, une jurisprudence qui s'est passée il n'y a pas si longtemps. C'était que des candidats d'une émission de télé-réalité, je crois que c'était l'Île de la Tentation, n'avaient pas de contrat de travail, ont été reconnus avec un statut juridique comme artiste. Et la deuxième chose, c'est, on va dire, les émissions qui fabriquent des artistes comme la Star Academy ou Popstar ou des choses comme ça, où on va dire, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'artification en train de se faire, où il y a une certaine reconnaissance par des professionnels ou par les pairs. Et il y a en même temps un rapport avec le public et ce potentiel entre la personne qui fera peut-être vendre le plus de disques et le goût du public et on va dire les pairs et l'idée de ce que les pairs se font d'un artiste aujourd'hui.
Je crois que là on est dans un autre problème auquel on s'est heurté, c'est de faire la différence entre le statut d'une pratique en général et le statut des personnes qui... la pratique, justement. Et ce à quoi vous faites référence, c'est plutôt la façon dont des personnes individuelles,
arrive à entrer ou pas dans le monde de l'art. Hein. Ce qui se passe à la Star Academy, ce n'est pas du tout le changement de statut d'une pratique, puisque le fait de chanter ou de danser est déjà considéré comme une pratique artistique, ça ne pose pas problème. Ce qui se passe dans ces émissions-là, c'est la possibilité que donne la télévision de permettre à des gens qui n'étaient pas des professionnels d'entrer dans ce monde-là, à titre de plus ou moins professionnel. Voilà. Alors, la question de la frontière dans les émissions de télé-réalité, hein, ça, c'est une question extrêmement intéressante, puisque ces émissions ont créé un dispositif qui n'existait pas, totalement inédit, qui a posé en effet des problèmes à la fois moraux, juridiques, économiques, etc., et qui font que les protagonistes sont dans un statut intermédiaire entre des joueurs, des acteurs, des co-auteurs, voilà, et que les jurys se sont amusés à jouer avec ce montage composite qui a créé aussi beaucoup de problèmes moraux. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus. Mais là, je crois qu'il faut vraiment la question de l'entrée des praticiens dans un monde déjà constitué comme tel a été traitée dans un autre ouvrage collectif, également publié, je crois, aux éditions de l'École des hautes études, dirigé par Gérard Moget, hein, qui s'appelle Droit d'entrée, c'est ça, je ne me trompe pas. Ah pardon, c'était les éditions du Crocan, excusez-moi, mais bon, comme Moget est à l'école, bon, bref. Et voilà, et donc, il y a toute une série d'articles très intéressants sur la façon dont des individus parviennent à pénétrer ce monde souvent très convoité qu'est le monde de l'art. Mais c'est une autre problématique qui n'est pas la nôtre. Nous, on s'intéresse, comme l'a dit très bien Jean-Marie, vraiment à un saut de frontière ontologique d'une pratique en général.
Dernière question.
Je crois que je boucle la boucle, du coup. Comment je me demandais, enfin, je ne pense pas que ce soit une question que vous traitiez dans votre livre, mais est-ce que, selon vous, dans ce cas, il peut y avoir art sans artification ?
Moi, je dirais non.
Ben non,
c'est... Mais quand ben, on prend l'exemple des graffitis, par exemple, dont vous parliez tout à l'heure, vous disiez que c'est des personnes qui ont acquis un statut d'artiste par l'artification. Mais je veux dire, les œuvres qu'ils ont réalisées avant, enfin, par exemple, si on prend l'exemple de Basquiat, les œuvres qu'il a réalisées avant d'être considéré comme artiste, finalement, on les a considérées comme de l'art, après coup. Donc, c'est une question qui est un peu compliquée, finalement. Enfin,
c'est exactement la même question que l'art brut. Hein, voilà. C'est exactement cette question-là.
Oui, mais toute notre thèse est celle-là, c'est que l'art est le produit de l'artification. Donc, oui, je suis bien sûr d'accord avec Nathalie que non.
Il peut y avoir des objets qui existaient préalablement à leur artification et qui, du coup, rétrospectivement, sont traités comme des œuvres d'art. Mais le traitement comme se situe au présent et lui est postérieur au processus ou constitutif du processus d'artification.
Quand on a posé la problématique au tout début, on a bien dit qu'il faut accepter qu'une chose puisse fonctionner comme œuvre d'art en certains moments et non en d'autres. C'est tout à fait ça votre question, en fait.
Donc c'est bien le processus qui nous intéresse, et pour travailler un processus, il faut le travailler en situation réelle, au moment où il se produit, même s'il se produit à propos d'objets qui lui sont bien antérieurs.
Est-ce que c'est pas un peu réduire l'art à un processus, du coup ?
Oui, absolument. Vous avez tout à fait bien compris. C'est abandonner toute perspective essentialiste qui consisterait à définir préalablement ce qu'est l'art au profit d'une perspective, disons, pragmatique qui consiste à observer les processus par lesquels quelque chose devient autre chose.
Voilà. Je vous invite à lire le livre parce que vous verrez que ce n'est pas réducteur.
Mais ce sera peut-être aussi l'occasion d'un autre débat. Merci beaucoup Philippe Mourat, merci Nathalie Hennig, Roberta Sapiro et Jean-Marie Schaeffer. Je vous rappelle que ce débat sera très vite disponible sur Internet, sur le site de la BPI, dans la rubrique Archives sonores. À très bientôt.